On va commencer par une petite question. En qui êtes-vous prêt à mettre votre confiance? Qui est-ce que vous êtes prêt à suivre? Quels sont les critères qui vont vous donner confiance en quelqu'un? Est-ce que ça va être quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui attire les foules, qui parle bien, qui est connu, qui est médiatisé? Une de ces personnes, par exemple? Alors peut-être que ce sont les caractéristiques souvent habituelles qui font qu'on a envie de faire confiance en quelqu'un. Alors vous me voyez venir. Ce matin, si j'ai envie de parler de suivre quelqu'un, forcément c'est Jésus-Christ. Alors, si je devais résumer le message de ce matin en une phrase ou un titre, ce serait « Être de vrais disciples du vrai Jésus ». C'est tout le message de l'Évangile. C'est vraiment l'essentiel, c'est le cœur de la Bible. Alors, c'est le cas en particulier dans l'Évangile de Jean que nous suivons depuis la rentrée, je crois, depuis septembre. Alors, on va en profiter pour faire une petite interro surprise. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel est le verset qui résume le mieux l'Évangile de Jean? Moi, je pensais pas à celui-là. Jean 3,16 qui dit... Ouais, c'est à peu près ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je pensais à un autre verset. Ah, ça c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va vous le donner. Le verset qui résume le mieux l'évangile de Jean. C'est pas celui-là, mais il est aussi dans Jean, effectivement, vous en connaissez plein. Ce qui se trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. En fait, Jean lui-même explique quel était le but de l'évangile qu'il a écrit. Qu'on croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir. On va prendre tout le chapitre 6, mais on ne va pas tout lire en détail. Rassurez-vous, il y a 71 versets, et en plus c'est très riche. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire une étude détaillée. On va essayer de faire un survol pour voir quel est le message important pour nous ce matin. Alors vous pourrez garder votre Bible ouverte au chapitre 6 pendant tout le message. Comme ça, au passage, ça vous permet de vérifier que je ne dis pas trop de bêtises. C'est un réflexe important à avoir. Ce n'est pas parce qu'on est là devant qu'on dit que des bonnes choses. Il faut vérifier dans la Bible toujours, c'est la Bible la référence. Alors, le chapitre 6, c'est un chapitre où il y a des épisodes bien connus dedans. Il y a par exemple celui de la multiplication des pains. Tous les enfants qui sont venus à l'église et qui ont assisté à l'école du dimanche connaissent cette histoire. Il y a aussi celle de Jésus qui marche sur les eaux. C'est aussi un passage connu. Aujourd'hui, on va aussi plus s'intéresser à ce qui suit. À des discussions qu'il y a entre Jésus et des gens qui ont assisté à la multiplication des pains, des discussions de Jésus avec des chefs religieux, parce qu'il enseigne à la synagogue. Alors, dans l'évangile de Jean, on constate qu'il y a une tension de plus en plus grandissante. Jésus est de plus en plus connu, il attire des foules de manière de plus en plus forte, et en même temps, il y a une opposition de plus en plus forte de gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe avec Jésus, qui ne sont pas contents de ce qu'il dit et qui s'opposent à lui. Donc on est déjà au chapitre 6, il reste encore beaucoup de chapitres jusqu'à la fin de l'évangile, mais on voit déjà qu'il y a cette tension qui grandit. Alors au chapitre 6, Jésus commence déjà à être connu et les gens savent qu'il fait des miracles, et donc ils veulent le voir. Ils savent qu'il parle avec autorité et ils veulent l'entendre enseigner. Et donc finalement, Jésus, on ne le laisse pas tranquille. On va le chercher là où il est. Il commence déjà à être un peu victime de son succès. Alors, le contexte géographique, on va dire, de notre histoire aujourd'hui, c'est le lac de Galilée, au nord d'Israël. C'est une province loin de la capitale. Mais c'est là où Jésus a grandi, c'est là où il a commencé son ministère. Jésus, pour être tranquille, il va sur la rive un peu moins habitée du lac pour se retrouver un peu avec ses disciples. Et malgré ça, il voit qu'il y a une foule qui arrive et qui le suit. Alors, je vous propose un rapide résumé de toute l'histoire du chapitre 6. Donc Jésus est avec ses disciples dans ce coin désertique à l'est du lac et il voit arriver toute cette foule. On dit qu'il y avait à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on peut s'imaginer qu'il y avait au moins le double de personnes, n'est-ce pas ? Et voilà que Jésus et ses disciples se retrouvent organisateurs, malgré eux, d'un grand événement, d'une super conférence. Quand on pense à tout le travail que ça représente, aujourd'hui pour organiser un congrès, là ils n'avaient pas du tout préparé. Et voilà que Jésus dit à ses disciples, où achèterons-nous du pain pour que tous ces gens aient à manger ? Alors, je sais pas vous, mais moi si j'étais à la place de ses disciples, je me dirais, mais il est fou, il a craqué, comment on pourrait trouver du pain justement ? On va quand même pas faire ça, c'est leur problème, c'est eux qui sont venus, c'est à eux de se débrouiller, non ? Et Jésus, non seulement il s'intéresse au bien-être des gens qui viennent le voir, mais ici on voit qu'il voulait tester la foi de ses disciples. Jésus savait très bien là où il allait en venir, et on voit dans ce passage qu'à partir de 5 pains et 2 poissons qu'un jeune garçon avait dans son panier, Jésus va le partager. Ça va se multiplier, il y en aura assez pour nourrir toute cette foule, et même il y aura des restes. Voilà. Les gens ont compris que Jésus avait un pouvoir particulier, qu'il était puissant, et ils le reconnaissent comme un prophète. Et Jésus comprend qu'il y a quelque chose qui pourrait très bien se passer s'il ne partait pas très vite. Il sent que fort de son succès, les gens vont vouloir l'acclamer comme leur roi, comme leur chef politique, parce qu'ils cherchaient un leader pour les délivrer du joug des Romains qui gouvernaient la région. Mais ce n'était pas du tout le plan de Jésus-Christ. Donc, on voit Jésus qui se retire de la foule, même sans ses disciples. Ensuite, ses disciples décident, quand le soir était venu, de traverser le lac pour revenir d'où ils venaient. Ils prennent une barque, et tout d'un coup, la tempête arrive. Et il paraît que sur ce lac, ça peut arriver très très vite, et les vagues être très vite impressionnantes. Les disciples ont peur, ils sont perdus, et au comble de leur peur, ils voient quelqu'un qui arrive à leur rencontre, qui marche sur l'eau. Bon, ils ont déjà vu des choses extraordinaires avant, mais là quand même, ils ont peur. Et c'était Jésus, et il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et ils arrivent juste après, sur l'autre côté du lac, sur l'autre côté. Le lendemain, les gens qui avaient assisté à la multiplication des pains se rendent compte que Jésus avait disparu, mais qu'il y avait un truc bizarre, il manquait une barque, ils se sont demandé comment il avait pu traverser. Et donc ils le cherchent, il est où Jésus ? Et ils finissent par le trouver, donc à Capernaum, qui était une des plus grandes villes qui était de l'autre côté du lac. Et quand ils viennent à Jésus, lui il sait ce qu'ils ont en tête. Il sait ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Ils avaient goûté une fois le pain que Jésus avait multiplié. Eh bien, ils en veulent encore. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le prophète, le Messie, il fasse aussi bien que ce qui s'était passé du temps de Moïse. Du temps de Moïse, le peuple était dans le désert et Dieu les avait approvisionnés avec la manne, espèce de graines qui tombaient du ciel avec lesquelles ils ont pu faire du pain tous les jours. Pendant 40 ans, ils s'attendaient à ce que le prophète, le Messie, puisse faire aussi bien. Donc, pour vérifier que c'était bien lui, ils lui demandaient de continuer à lui donner à manger, donner du pain. Et la réponse de Jésus, elle est surprenante. Il leur dit, « Mais je suis le pain qui vient du ciel. » Que vous me mangiez, que vous mangiez mon corps, que vous buviez mon sang. Ah. Et là, on sent que les gens qui discutent avec lui, ils ne comprennent pas, et ils trouvent ça de plus en plus bizarre. D'abord, cette foule, ensuite, les chefs religieux qui s'y mettent, ils disent, mais non, c'est pas possible. Tu dis que tu viens du ciel, mais nous, on sait que tu viens de Nazareth, que tu es le fils de Marie et Joseph. Comment tu veux nous faire croire que tu viens du ciel ? Et au fur et à mesure, Jésus utilise un langage de plus en plus difficile à comprendre. parce qu'il est de plus en plus figuratif, il est de plus en plus explicite dans « il faut me manger moi ». Ça, c'est bizarre. Et il fait même fuir les gens qui le suivaient, les gens qui se présentaient comme des disciples. Mais quels les disciples qui se sont éloignés de Jésus après qu'il ait dit ces paroles ? Trop difficile à comprendre. Et à la fin, il se retrouve avec 12 disciples. Et encore, parmi ces 12, Jésus dit clairement qu'il y a l'un d'eux qui va le trahir. Il savait déjà qu'il y avait l'un d'eux qui allait le trahir, c'était Judas. Alors, avant d'essayer de tirer quelques enseignements de ce passage, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelques petits détails du texte, quelques faits ou comparaisons. Quand on lit le texte, on se rend compte que le thème du pain est développé pendant tout le chapitre. Au début, c'est le pain que Jésus a multiplié et que les gens ont mangé. Et après, c'est le pain de vie que Jésus dit être lui-même et qui dit aux autres de manger. J'ai compté, j'ai trouvé 21 fois le mot pain dans ce chapitre. Alors, vous pourrez compter chez vous. Attendez un peu, si vous êtes impatient de compter, je préfère que vous m'écoutiez pour la suite, j'ai d'autres choses à vous dire. Deuxième remarque. On peut remarquer qu'il y a un contraste entre la foule, donc les 5000 hommes plus tous les autres, qui sont venus voir Jésus au début, et à la fin, les douze pelés, on dirait, qui sont restés avec lui. Est-ce que c'est pas un constat d'échec ? Il avait le succès pour lui, les gens venaient, et délibérément, jusqu'à la fin, ils débrouillent pour qu'il n'y en ait plus que 12 qui restent avec lui. Troisième remarque. On peut voir un autre contraste. Parce qu'au début, quand il multiplie les pains, Jésus fait un miracle que personne ne lui a demandé de faire. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Et dans la deuxième partie du texte, on voit que c'est le contraire. Les gens lui demandent un miracle, ils s'attendent à ce qu'il en fasse un, et ils refusent. Quatrième remarque. On pourra constater, et on le verra un peu plus tout à l'heure, qu'il y avait une différence entre ce que les gens attendaient de Jésus, ce qu'ils se représentaient de lui, et qui il est vraiment, et quelle était vraiment sa mission. Et enfin, dernière remarque, on verra aussi qu'il y a une différence, un contraste, entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui sont ses disciples. Une opposition entre ses fans et ses vrais disciples. Alors on peut en venir maintenant aux enseignements qu'on peut retirer de ce passage. Première chose, c'est l'image que Jésus utilise. Manger le pain qui descend du ciel. Alors même nous, on a encore du mal à comprendre ce que ça peut vouloir dire. C'est cette remarque qui a fait fuir même ses disciples. Alors on va voir, il y a plusieurs versets dans lesquels cette image est développée. Par exemple, au verset 35, où Jésus dit « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et plus loin, au verset 51, « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Et là, on voit à quel point il va être de plus en plus explicite, ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus littéral dans ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit au chef religieux. « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. » Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. C'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi en moi. Qu'est-ce que Jésus a bien pu vouloir dire avec cette image ? Je suis le pain de vie. Il faut me manger. Alors le pain, c'est la base de la nourriture. C'est vrai aussi pour nous en France. En Chine, ça marche peut-être moins bien. J'ai déjà entendu qu'il y en a qui traduisaient « je suis le riz de vie » puis ça parlait mieux aux gens. Le pain, ça nous parle. Et la nourriture ? Eh bien, pour nous, c'est indispensable pour pouvoir vivre. C'est ça qui fait tourner notre corps. Alors, pour essayer de comprendre cette image, qu'est-ce qui se passe quand on mange ? Les molécules de la nourriture qu'on mange vont être assimilées dans notre corps et vont petit à petit faire partie, pas toutes, parce qu'on en rejette, mais une partie de ces molécules-là vont faire partie des molécules de notre corps. De même que ce qu'on mange va contribuer à nous faire grandir physiquement, ce qu'on peut manger spirituellement, manger Jésus, ça va nous faire grandir aussi spirituellement. La semaine dernière, Manu a prêché sur demeurer en Christ et Christ demeure en nous. C'est encore la même idée. Si Jésus vient habiter en nous, il va nous transformer. Ces nouvelles molécules vont faire partie de nous. Donc si ça se passe dans nos pensées, les pensées de Jésus-Christ vont faire partie de nos pensées et on va grandir dans nos pensées. Il va transformer nos vies, transformer notre cœur. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence dans son épître aux Romains. Et c'est par ce renouvellement de l'intelligence qu'on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est pur, agréable et parfait. Dieu nous change de l'intérieur. Tout ça, ça ne nous dit pas exactement comment concrètement on peut manger Jésus-Christ. Alors on va afficher deux versets du chapitre 6 qui se font un peu écho. Alors le premier, au verset 40, il dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Et puis au verset 54, « Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Alors on peut remarquer que la deuxième partie de ces deux versets est identique. Je les ai soulignés en vert pour bien que ça se voit. Posséder la vie éternelle, il va les ressusciter au dernier jour. Ça, c'est les promesses que Jésus fait. Et si on compare les deux premières parties et qu'on les met en parallèle, on voit que c'est la même signification. Donc ça nous donne une piste pour comprendre ce que ça veut dire. Se nourrir de la chair de Christ et boire son sang, est-ce que ce n'est pas tourner le regard vers le Fils, croire en lui? Manger Jésus-Christ, ça veut dire qu'on vient à lui et qu'on croit en lui. Alors, croire en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est croire qui il est. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure dans Jean 20, verset 31, référence à retenir. Tout ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. Donc, c'est croire que Jésus est le Christ. Croire en Jésus, c'est aussi croire en ce qu'il a fait. Alors, les interlocuteurs de Jésus à l'époque ne pouvaient pas encore le comprendre, mais Jésus savait qu'il allait réellement donner son corps. Son corps allait être brisé sur la croix, il allait être crucifié, que son sang allait couler comme un liquide, comme un breuvage. Et donc, Jésus faisait vraisemblablement allusion à ça, même si les gens ne pouvaient pas encore le comprendre. Croire en Jésus, c'est aussi croire ce qu'il dit. Et dans l'évangile de Jean, dès le début, Jésus nous est présenté comme la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est aussi dans la Bible. Donc se nourrir de Jésus, manger Jésus, se nourrir dans la parole de Dieu, c'est aussi étudier la Bible, dévorer la Bible. On parle de dévorer un livre, ben ça marche aussi pour la Bible. Quand j'étais enfant, j'avais fait des camps. Et le matin, on avait un temps où on lisait la Bible, on appelait ça le petit déjeuner du cœur. Je trouve que cette image-là, elle est parlante, c'est qu'on se nourrit en lisant la Bible, en l'étudiant, en la méditant. C'est comme ça que Dieu veut nous transformer, que Dieu nous fait grandir. C'est plus qu'une belle image. Manger le pain de vie, c'est une réalité incroyable, c'est ça la vie chrétienne. Alors, venons-en un deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce passage, de ce chapitre. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que le slogan ou le titre du message ce matin, ça pourrait être « Être un vrai disciple du vrai Jésus ». Alors, on va d'abord s'intéresser à la partie « vrai Jésus ». Vous allez me dire, mais comment ça, vrai Jésus? Parce qu'il y a des faux Jésus aussi. Eh oui. Quand on regarde dans le texte, on voit que les gens avaient une certaine image et certaines attentes de Jésus. Au début, on les voit, ils viennent voir Jésus parce que ils veulent le voir faire des miracles, ils veulent le voir leur parler. Ils avaient une attente. Ensuite, on voit que Jésus doit les fuir parce qu'ils avaient une attente politique. Ils voulaient que Jésus soit leur leader politique. Troisième attente qu'ils avaient plus loin, la deuxième partie du texte, c'était qu'ils s'attendaient à ce que Jésus leur donne encore du temps. Nous aussi, on peut avoir des attentes vis-à-vis de Jésus. Peut-être que on peut être plus focalisé sur ce que nous, on veut, sur ce que nous, on attend de Jésus, que sur Jésus lui-même. Dans quelle mesure Jésus est notre but, notre objectif, notre Dieu? Ou dans quelle mesure c'est un moyen pour arriver à nos fins? Et je vous invite à écouter nos prières. Parfois, on se rend compte que dans nos prières, on est très centré sur nous-mêmes. On est très centré sur « Seigneur, donne-moi ça, tu vois que j'ai ce problème, j'ai besoin de ton aide. » Alors, que les choses soient claires, c'est bien de demander les choses à Dieu. C'est bien de lui demander son aide, c'est très biblique. La Bible nous demande de le faire parce que Dieu veut qu'on s'adresse à lui, qu'on lui fasse confiance pour toutes ces choses. Mais si il n'y a que ça dans la relation, si il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'adoration, ou plutôt, si au lieu d'adorer Dieu, on adore ce qu'il peut nous donner, est-ce que ce n'est pas une idole? Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Et si les attentes qu'on a de Jésus-Christ supplantent notre attente de Jésus-Christ, ça peut devenir une idole. Ça peut devenir un faux Jésus. L'autre aspect, et la Bible nous a mis en garde à plusieurs endroits, c'est que il y aura des faux prophètes. Il y aura des gens qui se disent être Jésus. Et il faut qu'on soit vigilant pour discerner qui ils sont et ne pas nous laisser embobiner. Et la meilleure manière de le savoir, c'est d'étudier la Bible. Et si ces gens qui se prétendent prophètes ou le Christ qui revient sont en contradiction avec ce qui est dans la Bible, on saura tout de suite que ce sont de faux prophètes. D'où l'importance de manger le vrai Jésus. Alors, on a parlé du vrai Jésus, maintenant on va parler des vrais disciples. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire la différence entre les fans, les gens qui viennent voir Jésus, parce qu'ils sont intrigués, intéressés de ce qui va se passer, et les vrais disciples de Jésus. Les fans, il y en a des milliers au début du passage. Les vrais disciples, il n'en reste plus que 11 quand on enlève Judas. On voit qu'après que Jésus ait été dur dans ses paroles, il y en a qui ont pas tenu le choc. Au verset 66, on peut lire « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtaient de marcher avec lui. » On peut se dire, mais quand même, si c'était des disciples, comment ça se fait qu'ils ont quitté Jésus? Et le texte nous donne la réponse à cette question. Leur problème, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment des disciples. Ils ne croyaient pas vraiment en Jésus. Certes, ils avaient commencé à le suivre, mais ils ne croyaient pas vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Être un disciple, ce n'est pas juste être un fan, ce n'est pas juste avoir la carte de fidélité pour avoir les avantages privilèges des gens qui sont au club, je ne sais pas quoi. Être un disciple, et on va le voir dans, par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 8, où Jésus, après avoir annoncé les souffrances qu'il attendait à la croix, et qui fait face à l'incompréhension de ses disciples et leur refus d'accepter la situation, voilà ce qu'il leur dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et l'évangile de Luc, on peut lire aussi, « Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, » d'autres traductions disent « renoncer à lui-même », ne peut pas être mon disciple. Hein. C'est pas pareil. Vouloir bénéficier des bénédictions de quelqu'un et d'être son disciple, de renoncer à soi-même. Méfions-nous si on veut résumer la vie chrétienne à juste tirer profit des bénédictions qui viennent de Dieu. Et il y en a. Il y en a vraiment. Et Jésus fait vraiment des miracles, on le voit. Mais si ça se résume à ça, ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas être des disciples. Être des disciples, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est porter notre croix et le suivre. Et peut-être que, parmi nous, les personnes qui viennent à l'église depuis des années, qui participent régulièrement aux activités, qui prient, qui donnent, ou j'en sais rien, mais qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, qui sont comme ces disciples, ces faux disciples, entre guillemets, qui ont quitté Jésus-Christ. J'aimerais tellement que ce que je suis en train de dire soit complètement bidon. J'aimerais tellement que ce que je suis en train de dire ne concerne personne parmi nous. Malheureusement, si c'est le cas, c'est tellement grave. Et en même temps, ce n'est pas irrémédiable. Il y a encore temps. Jésus veut non pas des fans, mais des disciples. Il faut qu'on en soit conscient ce matin. Alors, quatrième et dernier enseignement. Si ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des disciples, mais qu'être des disciples, c'est compliqué, qu'être des disciples, ça a un coût, ça demande des sacrifices, ça demande de renoncer à nous-mêmes, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être un disciple? Finalement, si on est juste un fan, si on le suit et qu'on voit tous les miracles qu'il fait, si on voit les bénédictions qu'il donne, est-ce que ce n'est pas suffisant et mieux? J'ai pas forcément envie de renoncer à moi-même. Alors, le texte nous donne trois bonnes raisons pour lesquelles il n'y a plus aucun doute que ça vaut vraiment le coup de renoncer à nous-mêmes pour être un vrai disciple. Première promesse, on l'a déjà lu plusieurs fois tout à l'heure, c'est de posséder la vie éternelle, verset 40. « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Alors, c'est quoi la vie éternelle ? C'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens, qui attise les passions. Il y a des scientifiques qui font des recherches. Et combien d'articles vous n'avez pas déjà vu dans des magazines ? Ces savants ont peut-être trouvé la recette de l'éternité, ou ont peut-être trouvé la molécule qui fait qu'on ne mourra jamais. Il y a une attente, une passion à ce niveau-là. Ce n'est pas de cette vie éternelle dont il est question. Ce n'est pas une continuation indéfinie de la vie que nous connaissons sur cette terre. Mais c'est beaucoup mieux. La vie éternelle en question, c'est une vie qui n'est plus sous le poids de la corruption du péché dans le monde. La Bible nous dépeint très clairement que toutes les souffrances du monde, c'est la conséquence de la désobéissance à Dieu, des hommes à Dieu, et ce qu'on appelle le péché, et que ça pèse sur nous. C'est notre condition humaine. Cette souffrance, tout ça, c'est lié au péché. Mais la vie éternelle en question, ici, c'est une vie où il n'y a plus le péché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le mal, il n'y a plus les souffrances, il n'y a plus les larmes. C'est ça, la vie éternelle. C'est encore mieux que ce que les scientifiques essaient d'arracher. Deuxième promesse, c'est d'être gardé par le Fils. Le Fils, ça désigne Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Verset 39. « Celui qui m'a envoyé, mon Dieu, veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle perte Jésus parle-t-il ? Ça veut dire qu'une fois qu'on est un vrai disciple, c'est Dieu qui était derrière, qui nous a conduits à Jésus-Christ, qui nous a confiés à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en fait un point d'honneur, en fait sa responsabilité de ne pas nous laisser tomber, de ne pas nous perdre. Quand nous sommes un vrai disciple, Jésus-Christ nous garde dans ses mains. Si on regarde dans ce passage,
peut se dire, mais il n'y a pas des contre-exemples, là, les disciples qui étaient avec lui, ou même Judas qui était resté à la fin avec les 12, mais qui s'est quand même perdu. C'est que ces gens-là n'étaient pas des vrais disciples, ils n'avaient jamais vraiment compris qui était Jésus-Christ, ils n'avaient pas forcément accepté ce qu'il était. Quelque part, cette promesse-là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre persévérance en tant que disciple, elle dépend de Jésus-Christ. Si elle devait dépendre de nos propres forces, ce serait un peu fragile. Ce serait tout aussi fragile que devoir dépendre de notre capacité à accomplir toute la loi de Dieu. Et ça, c'était le problème de l'Ancienne Alliance. La loi qui était donnée au peuple juif, elle ne leur permettait pas d'être juste parce que c'était impossible. Ils n'avaient pas les forces suffisantes pour accomplir toute la loi. Donc, heureusement qu'on ne doit pas dépendre de notre persévérance à nous pour rester un vrai disciple jusqu'au bout. C'est Jésus-Christ qui nous dit. Troisième et dernière promesse qui fait que c'est une bonne raison d'être un vrai disciple, c'est qu'on sera ressuscité au dernier jour. C'est la suite du verset 39. Jésus qui dit « Mais je les ressuscite au dernier jour. » Alors, je ne vous l'apprends pas ce matin. On va tous mourir un jour, sauf si Jésus revient avant. Un jour ou l'autre, inéluctablement, notre corps va dépérir, ne fonctionnera plus. Mais la Bible nous dit très clairement que tout ne s'arrête pas à notre mort physique. Il nous dit que quand Jésus reviendra sur cette terre, il va ressusciter d'abord ceux qui lui appartiennent pour la vie éternelle. Il va aussi ressusciter les corps de ceux qui ne lui appartiennent pas pour le jugement. Et la bonne nouvelle pour les disciples, c'est que les vrais disciples seront ressuscités au dernier jour pour la vie éternelle. Et inversement, et ça ce serait un argument contre refuser d'être un disciple, c'est que si on n'est pas un disciple de Jésus-Christ, on sera ressuscité, mais pour le jugement. J'aimerais conclure. Ce matin, nous avons vu que Jésus est le pain de vie, et qu'en tant que parole de Dieu, c'est en lui que nous pouvons trouver notre nourriture. C'est en lui que nous devons croire, et c'est quotidiennement que nous devons nous nourrir de sa parole. Deuxième enseignement, il faut qu'on se méfie des contrefaçons, des faux Jésus. Que ce soit des gens qui se déclarent être un Jésus ou un prophète, ou tout simplement les attentes qu'on peut avoir de Jésus et qu'on va ériger comme une idole et qui vont devenir un faux Jésus. Méfions-nous de cela. Troisième enseignement, soyons des vrais disciples et pas juste des fans de Jésus qui veulent le voir faire des miracles, des choses puissantes. Et être un vrai disciple, ça veut dire renoncer à nous-mêmes et le suivre. Quatrième et dernier enseignement, c'est que le disciple a tout à y gagner. Il n'y a même pas de calcul à faire. Est-ce que c'est mieux d'être disciple ou juste un fan, ça suffit? Non. Ça n'a même pas la peine de faire le calcul. Je vous invite à avoir un temps de silence pour qu'on puisse réfléchir à ça. Et garder cette question pour nous. Est-ce que je suis un vrai disciple du vrai Jésus ? C'est une question critique, vitale, de vie ou de mort. Ce matin, si tu es conscient que tu n'es pas encore un vrai disciple, ne tarde pas. Fais le pas. Tourne-toi vers Dieu. Demande à Jésus-Christ d'être ton maître. Reconnais que tout seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin de lui. Et demande-lui de te prendre dans ses mains. Demande-lui de te garder parmi ses disciples. Je vous invite au silence. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu t'es donné pour être le pain de vie. Merci parce que tu as accepté de renoncer à toi-même, renoncer à une vie paisible, renoncer à une vie longue, renoncer à une carrière brillante, politique, médiatique, renoncer à être au ciel pendant un temps, parce que tu nous aimais, parce que tu t'es donné pour être ce pain que nous pouvons manger, pour être ce pain qui nous donne la vie éternelle. Et Seigneur, merci parce que tu as vraiment accompli le plus difficile. Nous, nous n'avons qu'à manger. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à faire ce choix, que tu nous aides à être tes disciples. Tu vois qu'il y a peut-être des choses qui nous retiennent ce matin, il y a des choses auxquelles on n'a peut-être pas envie de renoncer. Seigneur, quand on compare ça avec ce à quoi toi tu as renoncé, c'est tellement futile. Seigneur, il y a peut-être ce matin quelqu'un qui lutte avec cela, qui lutte pour renoncer. Et ça me rappelle, il y a 20 ans de cela, Seigneur, où j'étais en lutte, où je ne voulais pas lâcher certaines choses. Mais tu m'as appelé, tu m'as fait comprendre que j'avais tout à gagner à renoncer à ces choses-là, que j'avais tout à gagner à te laisser prendre ma vie, que j'avais tout à gagner à être ton vrai disciple. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes et merci pour ces promesses que tu nous donnes quand on est ton disciple. Seigneur, je te prie pour que ces promesses ce matin, elles soient au bénéfice de chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie aussi pour tous ceux d'entre nous que tu as déjà appelés à être tes disciples, qui vivent comme tels. Et merci parce que tu veux aussi nous renouveler dans notre engagement. Merci parce que tu veux nous faire marcher jour après jour en bonne santé. Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes faim et soif de ta parole pour véritablement être nourris, pour grandir spirituellement et pour faire du bien aussi aux autres autour de nous. Seigneur, je veux vraiment qu'à toi revienne toute la gloire, parce que c'est toi qui en es digne. Gloire à toi, Seigneur. Amen.